Bien, bonjour à tous. J'ai entendu dire, ma femme m'a dit hier, il y avait un beau service, il y avait le beau service de funéraire de Clément, et apparemment c'était plein, il y avait beaucoup de personnes. Malheureusement, comme j'expliquais à Joël cette semaine, on va essayer d'être là, mais Gilles et moi, on était pris à Montréal. Gilles enseignait à Rosemont, j'enseignais à Sembec. Toute la journée, on était vraiment pris. Alors, on souhaite la condoléance, nos condoléances à la famille. Il semblerait que ça a été vraiment un beau service, donc nous louons Dieu pour ça. Moi, lorsque mes enfants étaient plus jeunes, à l'adolescence, ça arrivait, ils étaient surtout au secondaire. Ils arrivaient à la maison parfois, ils étaient entourés évidemment d'étudiants au secondaire, et puis ils avaient des amis, puis ça parlait de la foi par moments. Et il se faisait évidemment challenger et remis en question. Et sûrement, ça vous arrive si vous avez des enfants et peut-être même vous-même, vous passez par un temps là justement que vous avez des remises en question. D'ailleurs, juste dernièrement, il y a quelques semaines, j'ai entendu des parents qui parlaient à leur adolescent, adolescente, et puis elle passait à travers cette période-là dans sa vie où elle remettait en question bien des choses. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Jésus est venu? Est-ce que vraiment Jésus est né ici, s'est incarné, tout ça? Mais moi, j'aimerais vous soumettre la question sous un autre angle. Qu'est-ce qui serait arrivé si Jésus n'était pas venu? Alors, prenons-le sous un autre angle. Qu'est-ce qui serait arrivé? Quel serait notre monde si Jésus n'était pas venu? Et c'est le titre d'un ouvrage intitulé « Si Jésus n'était pas venu ». L'auteur va emprunter vraiment le corridor de l'histoire. Il s'en va, il parcourt à travers l'histoire pour regarder tout l'impact que la Bible, les chrétiens, Jésus-Christ, le christianisme ont eu sur la société et sur nos vies, sur la vie de bien des gens. La conclusion de sa recherche, après avoir fait une recherche bien étoffée, la conclusion est celle-ci. Si Jésus n'était pas venu, le monde serait différent. Parce que Jésus est venu dans le monde, parce que nous avons sa parole, parce que l'Évangile a touché des millions et des millions à travers l'histoire de vie, le monde a changé grâce à l'Évangile. L'incarnation, le fait que Jésus ait quitté le ciel et qu'il soit venu ici, sur terre, dans un petit enfant, et qu'il est né ici, qu'il a vécu comme un homme, le fait que Jésus soit venu, l'incarnation a vraiment une portée universelle. Maintenant, la naissance de Jésus a changé vraiment la vie de millions de personnes à travers l'histoire. Parce que Jésus est venu, nous pouvons maintenant avoir une relation avec Dieu. On connaît Dieu. Et la Bible appelle cela la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance a changé des millions et des millions de vies, changé les familles. En plus, les valeurs qu'on reçoit lorsque tu es dans le Seigneur et que tu ouvres les Écritures sont différentes de celles qu'on va recevoir dans la société. Les chrétiens marchent à contre-courant et changent le monde pour le mieux. Dans son livre intitulé « Suis-moi », David Platt dit ceci, « Lorsque Jésus vit en nous, tout commence à changer. » Et voilà pourquoi, voici pourquoi, dit David, quand on considère sérieusement ce que Jésus avait en tête quand il a dit « Suis-moi », nous découvrirons qu'il offre bien plus que tout ce que le monde peut nous offrir. Quand Jésus vient en nous, tout commence à changer. Notre manière de penser change. Notre vision du monde change. Pour la première fois de notre vie, nous comprenons enfin qui est Dieu, ce que son Fils a fait, et combien nous avons besoin de lui. Et tout d'un coup, on découvre la raison d'être, notre raison d'être, qui je suis, qui nous sommes, pourquoi on est ici sur terre. Ces grandes questions sont répondues à travers les Écritures. Alors, notre manière de changer change. Notre manière de penser change. Deuxièmement, nos désirs changent. Les choses de cette terre que nous aimons, nous commençons à nous distancer, à moins les aimer. Dans certains cas, même, nous les détestons. Et les choses de Dieu que nous détestions, nous commençons à les aimer. Et plus on découvre la parole de Dieu, puis plus on découvre comment ce sont de bonnes choses et comment Dieu veut du bien. Troisièmement, notre volonté change. Nous allons là où Jésus nous demande d'aller. Nous donnons ce qu'il nous demande de donner. Et nous sacrifions ce dont nous avons besoin de nous débarrasser pour vivre une obéissance sans compromis à sa parole. Quatrièmement, nos relations changent. Dans l'Église, nous apprenons à donner nos vies par amour pour les autres. On commence à servir et se donner. Et ensemble, nous annonçons le merveilleux message de l'Évangile. Notre raison d'être change. Nos possessions, notre position ne sont plus des priorités. Nous ne recherchons plus le confort et la tranquillité. Notre sécurité n'est plus notre objectif parce que notre propre personne n'occupe plus la première place comme elle le faisait autrefois. Nous étions comme un Dieu à nos yeux avant de connaître Dieu. Mais là, on place le Seigneur à la première place et on devient, comme le site le dit bien, « Je suis deuxième », on devient deuxième. La gloire de Dieu est désormais plus importante à nos yeux qu'à notre propre vie. Plus nous le glorifions, plus nous avons de plaisir à être dans sa présence. Plus on le découvre, plus on le connaît, plus on a du plaisir à s'approcher de lui et le connaître. Si Jésus n'était pas venu et si nous n'avions pas sa parole, le monde serait différent. Et des millions de personnes ne seraient jamais devenues ce qu'elles sont devenues parce qu'elles sont devenues chrétiennes. J'en ai des témoignages, plein de témoignages de gens dont leur vie a été complètement chamboulée, renversée lorsqu'ils ont mis leur vie en Jésus-Christ. Je vous ai déjà parlé de ce couple à Lavalesse qui venait à notre église à Laval. Un couple qui avait été séparé pendant plus de 11 ans. Un fils demeurait avec la mère et deux fils demeuraient avec la mère et un fils demeurait avec le père. 11 ans séparés. Et la mère est venue au Seigneur, ou plutôt un des fils est venu au Seigneur. Et tranquillement, le restant de la famille est venu au Seigneur. Même la mère, après avoir accepté le Seigneur, après avoir complètement changé, et même si on n'est pas parfait lorsqu'on vient au Seigneur, absolument pas, toute notre vie, on va lutter avec le péché, on veut s'améliorer, on veut devenir de plus en plus comme la stature parfaite de Jésus-Christ. Il est notre modèle, il est l'homme parfait, l'être humain parfait. Mais même si on n'est pas parfait, le Seigneur fait de gros changements dans nos vies. Et lorsque cette femme a accepté le Seigneur, elle a téléphoné son mari après 11 ans de séparation. Elle a téléphoné son mari et elle a dit, « Chérie, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Je viens d'accepter Jésus-Christ dans ma vie. Jésus est maintenant le centre de ma vie. Qu'est-ce que tu dirais si on revenait ensemble? » Imagine-toi donc la surprise de ce mari-là, 11 ans séparés. Est-ce que ce n'est pas la puissance de Dieu qui peut faire ça? Si Jésus n'était pas venu, est-ce qu'ils seraient revenus ensemble, cette famille-là? Moi, je peux vous le dire, absolument pas. Je les connais très bien, je les ai baptisés, toute la gang, toute la famille, même la copine, toute la famille. C'était tout à fait magnifique à voir dans notre Église. C'est vraiment une bénédiction de voir cette famille complètement changée par la puissance de l'Évangile. Non seulement Jésus et sa parole ont changé le monde, ont changé des vies, des familles, des enfants à travers le monde entier, mais la société aussi a changé. Le christianisme a eu tout un impact sur la société. Jésus et sa parole ont changé la société. La société n'est plus jamais, ne sera jamais plus la même parce que Jésus est venu dans le monde. Dans Actes 6, nous voyons, à cette époque-là, il y avait des chrétiens, la naissance de l'Église a eu lieu au deuxième chapitre et des milliers de personnes se sont converties à Jésus-Christ. Il y a eu vraiment un chambardement dans toute la ville de Jérusalem. Et nous lisons qu'à cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les Grecs murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Voyez-vous, les chrétiens prenaient soin des démunis, des moins nantis. Ils prenaient soin des gens qui souffraient. Et c'était l'une des marques des chrétiens. Ça arrivait, cette réputation-là s'est rendue jusqu'au gouvernement romain où les gens disaient comment les chrétiens prenaient soin vraiment des gens. On voit dans la lettre à Timothée que les églises tenaient une liste de noms qu'ils aidaient financièrement. Ils prenaient soin aussi des veuves. Alors, les chrétiens prenaient soin des gens. Un livre écrit par Alvin Schmidt, dont je vous ai déjà parlé, « How Christianity Changed the World », comment le christianisme a changé le monde, décrit l'impact de Jésus et sa parole sur la société. Il fait le bilan de l'influence des chrétiens dans le monde et comment les chrétiens ont littéralement changé le monde entier. Et pour le mieux, Si Jésus n'était pas venu, le monde serait différent. Le christianisme a changé littéralement le monde. Le christianisme a commencé à l'époque de l'Empire romain. Il y avait un dicton à Rome, ça disait « À Rome, vivez comme les Romains ». Mais lorsque les chrétiens sont arrivés à Rome, ils n'ont pas vécu comme les Romains. Ils ont chaviré tout le système moral des Romains. Les chrétiens ont élevé, par exemple, la dignité humaine. Les Romains accordaient très peu d'importance à la dignité humaine. La valeur d'une personne se mesurait selon ton statut. Augustin, qui est sorti de ce milieu, rapporte en plus que les dieux romains n'enseignaient aucune valeur morale. Alors, les chrétiens arrivent à Rome et ils ont élevé la dignité humaine. Ils ont vu les êtres humains comme étant des créatures de Dieu, la couronne de la création. Ils avaient une vision totalement différente du monde. Ils croyaient et enseignaient que l'être humain a été créé selon l'image de Dieu. Alors, ils traitaient les êtres humains avec respect, avec honneur, indépendamment de ton statut. Et cette valeur de l'être humain qui allait à contre-courant s'est traduite par des gestes très concrets pour aider les gens, pour changer le monde pour le mieux. Les chrétiens ont pris soin des gens. Je vous ai déjà parlé de l'infanticide, qui était très populaire à l'époque. Les chrétiens ont travaillé très fort pour faire cesser l'infanticide. Les Grecs et les Romains tuaient plusieurs enfants, particulièrement lorsque les nouveaux-nés, lorsqu'ils étaient faibles ou handicapés. Frédéric Farrar explique qu'on pouvait tuer un enfant juste parce qu'il semblait fragile ou qu'il était handicapé. On le tuait en le noyant. Au début de l'ère chrétienne, à Carthage, on pouvait offrir des petits-enfants en sacrifice aux dieux romains. Une famille qui n'avait pas d'enfant pouvait littéralement acheter un enfant d'une autre famille et l'offrir en sacrifice aux dieux en lui tranchant la gorge. Les archéologues ont découvert que sur les tables, les 12 tables de la loi romaine, il était écrit « Un enfant handicapé sera tué ». On tuait tellement d'enfants que les statistiques ont changé. On tuait tellement d'enfants que la population a même diminué. Imaginez l'ampleur. Les chrétiens sont arrivés et appelaient cette pratique, l'infanticide, un meurtre. Et pour eux, les enfants étaient une créature de Dieu. Ils enseignaient que Jésus bénissait les enfants. Les premières lettres de chrétiens montrent qu'ils condamnaient l'infanticide. D'ailleurs, on a découvert un document que l'on remettait aux nouveaux-nés, aux nouveaux chrétiens, qui s'appelle le Didache. C'est vraiment vers la fin du premier siècle. On remettait ce document-là pour montrer finalement comment vivre ta vie chrétienne maintenant que tu viens d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce document-là, le Didache, nous pouvons lire « Tu ne commettras point d'infanticide ». Dès les premiers pas de la vie chrétienne, on t'enseignait à respecter la vie humaine. Les chrétiens ont finalement réussi à illégaliser l'infanticide vers l'an 374. Et ce sont les chrétiens qui ont eu cette influence sur la société. Ils ont défendu la cause des enfants. Ils sont partis des orphelinats, des enfants qui étaient laissés dans la rue, abandonnés. On appelait ça « enfants exposés ». En fond, on les laissait mourir. Les enfants arrivaient de nuit, ils prenaient les enfants, les prenaient, en prenaient soin. Ils ont aidé les démunis, ils ont ouvert des hôpitaux. Au Concile de Nicée en 325, les chrétiens ont décidé d'ériger un hôpital dans chaque ville où il y avait une église. Et à cette époque-là, les hôpitaux logeaient des personnes démunies, en plus de prendre soin des malades. Pouvez-vous imaginer ce que serait le monde si Jésus n'était pas venu? Jésus a eu tout un impact, a changé le monde. Le monde est différent parce que Jésus est venu. La portée de l'incarnation. Ce sont les chrétiens qui ont influencé la vision des jeux gladiateurs. Ce sont les chrétiens qui ont fait cesser les sacrifices humains. Ce sont les chrétiens qui ont changé la vision du suicide qui était perçu à Rome comme un privilège. Ce sont les chrétiens qui ont travaillé à l'abolition de l'esclavage. Ce sont les chrétiens qui ont influencé l'éducation et même la science. On dit aujourd'hui que la foi et la science ne vont pas ensemble, mais vous serez peut-être surpris que ce sont les chrétiens qui ont parti les universités les plus respectées dans le monde. Harvard a commencé par des chrétiens et le but, c'était d'enseigner aux chrétiens la vérité pour qu'ils puissent adorer plus en plus Dieu et avoir une meilleure relation avec Jésus-Christ. D'ailleurs, c'était même l'emblème. Ça a commencé avec Veritas, puis ils l'ont changé après quelques années pour Jésus et pour sa gloire. Imaginez l'Université d'Harvard pour Jésus et pour sa gloire. Et ce sont eux, ils ont encouragé la recherche scientifique. Maintenant, les chrétiens ont eu également une grande influence sur la santé. Roberto Margotta, dans son livre « The Story of Medicine », l'histoire de la médecine, raconte comment les Européens avaient un gros problème à faire face à un très gros, ils faisaient face à un très gros problème au cours du Moyen Âge, et c'était la lèpre. Ils ne savaient pas quoi faire. Les chrétiens sont arrivés, ils ont regardé l'Ancien Testament, ils ont regardé les principes que Dieu donnait, ces lois qu'il donnait d'hygiène et alimentaire aux Hébreux. Ils ont pris ces principes, les ont appliqués dans la société, et il y a eu un changement qui a commencé à avoir lieu. Incroyable. Et que penser de l'influence des chrétiens sur l'économie? Les chrétiens ont un puissant témoignage sur la qualité du travail et la libre entreprise. La Bible dit de ne pas voler, de travailler pour la gloire de Dieu. Et les chrétiens prennent ça au sérieux. Alors, ils veulent être des bons employés parce qu'ils sont des représentants de l'Évangile. Vous serez peut-être surpris de découvrir que Fidel Castro, qui est un communiste, ça lui faisait mal de le dire parce que ça allait à l'encontre de ses convictions, mais il a été obligé d'avouer, admirer les évangéliques à Cuba. Car, dit-il, ce sont de bons travailleurs, on peut se fier sur eux, et ils ne trichent pas le système. Imaginez l'influence de l'Évangile, même que sur les employés. La raison est bien simple, dans la Bible, on cite plus de 700 versets sur l'argent. Et les chrétiens, lorsqu'ils viennent au Seigneur, découvrent la vision de Dieu pour gérer ses sous. Les chrétiens ont grandement influencé l'économie. Vous serez peut-être surpris que c'est Jean Calvin. Les historiens croient que Calvin, le réformateur, aurait été le fondateur du capitalisme et de la libre entreprise, en quelque sorte. Il a eu une grande influence sur l'économie. Et que dire de la perception de la femme? Ce sont les chrétiens qui ont rehaussé la dignité de la femme. On percevait les femmes comme inférieures aux hommes, mais Jésus a tout changé cela. Jésus enseignait les femmes alors que ça ne se faisait pas. Jésus prenait les femmes comme témoins alors que ça ne se faisait pas. La parole de Dieu fait du bien aux femmes. Elle honore les femmes, elle les élève. Un exemple dans l'Ancien Testament que je vous ai déjà expliqué, un passage très bizarre lorsque tu regardes ça et que tu ne connais pas le contexte historique du temps, c'est très étrange, où Dieu impose une loi pour prévenir les injustices commises aux femmes. C'est le test d'adultère. Dans le livre des Nombres, par exemple, au chapitre 5, Dieu instaure une loi qui semble vraiment étrange. À première vue, le passage semble très chauviniste. Tu lis ça, puis tu n'as pas l'expérience à lire la Bible. Tu fais juste ouvrir ta Bible, une personne qui fait juste ouvrir, puis tombe sur le Nombre, chapitre 5, commence à lire. Ça va paraître comme oppressif et chauviniste, mais c'est parce que il ne réalise pas le contexte historique, puis qu'en fait, c'est tout le contraire. Dieu est en train de protéger les femmes de ces abus qui existaient déjà. Voici la scène. Un homme soupçonne sa femme de l'avoir trompée. Sans même réfléchir, impulsivement, il attaque sa femme, sans preuve, sans rien, tout ça. Il attaque, bien s'il y avait des preuves, il n'y a pas d'affaire à l'attaquer, mais il saute sur sa femme impulsivement, puis là, tout d'un coup, elle va disparaître. Personne ne la voit. Personne n'ose poser de questions dans le village. Elle est disparue, puis tu ne reverras plus. Là. C'est comme ça qu'on traitait les femmes. Ou encore, certains hommes faisaient à croire que leur femme avait commis l'adultère juste parce qu'ils voulaient la mettre dehors. Comment protéger la femme dans un tel contexte? Eh bien, Dieu arrive avec un plan tout à fait incroyable. Il instaure une loi. Il instaure une loi qui cherche à prévenir les injustices commises aux femmes. C'est donc pour contrer l'action barbare qui avait déjà lieu et inhumaine de certains hommes. Et il va ériger une loi. Cette loi est le test d'adultère. Si le mari a des soupçons que sa femme l'a trompé, et je sais, mesdames, que vous allez dire, « Ben oui, mais l'homme, qu'est-ce qui arrive? » Tout ça, c'est venu, ça. C'est venu à travers l'histoire, ça s'en venait, là. La Bible le disait, là, de ne pas commettre l'adultère. C'était même d'ailleurs un des commandements. Donc, la Bible s'adresse aux hommes. Mais je prends un passage ici qui parle de la femme pour montrer comment Dieu a voulu protéger les femmes. Si le mari a des soupçons que sa femme l'a trompé, il n'a pas le droit de prendre les choses en main, juste improviser comme ça et l'attaquer, puis la faire sortir, puis la faire disparaître. Oh non, ça ne marchera pas de même. Alors là, ce qu'il va faire, c'est que le mari est obligé d'aller voir le prêtre, donc il va y avoir un intermédiaire. Alors, il ne peut pas régler la chose tout seul. Il va être obligé d'aller voir le prêtre, et le prêtre va faire quelque chose de très étrange. Il va prendre un peu de poussière à terre, prendre de l'eau, mélanger ensemble, ça devient de la boue. Et là, il va dire à la femme, « Tiens, tu vas boire ce verre de boue-là, et si ton ventre gonfle, c'est que tu as commis l'adultère. Mais s'il ne gonfle pas, c'est que tu n'as pas commis l'adultère. » Maintenant, regardez bien comment la loi protège les femmes. Premièrement, le mari n'a pas le droit de faire du mal à sa femme. Il doit aller voir le prêtre. Il y a un intermédiaire. Et deuxièmement, honnêtement, boire de l'eau et de la terre, là, c'est pas bon, là, mais ça ne tuera pas. Moi, je l'ai fait quand j'étais jeune. Tu as eu les enfants, là, la bouche grande ouverte, maman arrive, là, puis t'as de la terre partout, tout ça. Ma mère avait fait pousser des carottes, à un moment donné, je t'avais arraché les carottes, puis t'as plein de terre. Puis là, du coup, on mange, c'était tellement bon. Il y a des minéraux là-dedans. C'est comme. ça te fera pas mal. En d'autres mots, et c'est ça le point, c'est que ça prend une intervention divine pour que quelque chose se passe et le ventre gonfle. As-tu l'idée? Ça prend une intervention divine. Parce que normalement, ça ne fera rien. Écoute, hey, j'ai même lu à quelque part, allez pas faire ça, dites pas ça à vos enfants, là. J'ai même lu à quelque part, je ne sais pas si c'est vrai, là, que ça l'aide pour la mauvaise haleine. Vous essayerez ça, vous me direz ça la semaine prochaine. Bon. Ce que Dieu est en train de faire, c'est qu'il est en train d'instaurer une loi qui dit une personne est présumée innocente jusqu'à preuve du contraire. Là, vous allez dire, mais franchement, on a ça partout, en 2015, c'est... Non, dans ce temps-là, c'était pas comme ça du tout, c'est le contraire. Dans ce temps-là, à l'époque où Dieu donne cette loi-là, c'était tout à fait le contraire. Tu étais coupable jusqu'à preuve du contraire. D'ailleurs, c'est arrivé juste récemment, il y a quelques siècles, qu'on a adopté cette loi-là, parce que ça, pendant des années, ça a été de même pendant des siècles. Juste récemment, assez récemment, quand on parle de 2000 ans, la présomption d'innocence. Mais pourquoi faire un test? Pourquoi un test d'adultère? Ça, c'est bizarre, un test. Bien, pas vraiment, parce que lorsqu'on comprend le contexte historique, on découvre, on commence à comprendre qu'à cette époque-là, même dans tout le Proche-Orient, on faisait ce qu'on appelait des tests judiciaires. C'est commun, c'est des épreuves judiciaires. On avait ces épreuves judiciaires-là, même dans les autres cultures. On ne parle pas juste chez les Juifs, on parle partout ailleurs dans la culture du Proche-Orient. Malheureusement, ces procès étaient cruels. Ah, c'était cruel, ça n'avait pas de bon sens. Par exemple, si une femme était accusée d'adultère, il emmenait sa femme devant le juge de son pays. Et là, le juge ordonnait une épreuve judiciaire. Puis regardez bien comment ça fonctionnait. C'est que là, on avait un bol d'eau qu'on bouillait, qu'on brûlait, puis il y avait de l'eau bouillante, vraiment bouillante. Et la femme devait mettre la main dans l'eau bouillante et la sortir. Et si la main n'était pas brûlée, là, elle n'était pas coupable. Ça a-tu du bon sens? Combien de personnes, vous pensez, a sorti la main non coupable? Personne, tu ne réussissais pas. Personne ne réussissait les épreuves judiciaires. Ou encore, on apportait un bâton de fer, là, tige de fer, on la brûlait au feu au point qu'elle devenait rouge, rouge brûlée. Puis on disait à la femme, tiens la tige. Si ta main n'est pas brûlée, ça veut dire que tu es innocente. Mais c'est ridicule. Tu n'as pas de chance. Tu étais faite. Combien de fois les gens pouvaient sortir de ça? Jamais. Personne ne pouvait survivre les épreuves judiciaires. On te disait, tu es coupable jusqu'à preuve du contraire. Mais là, Dieu, dans cette société, Dieu va instaurer une loi de présomption d'innocence. Merveilleux, hein? Le test judiciaire de Dieu fait exactement le contraire. Avec Dieu, il n'y a pas d'épreuve judiciaire cruelle. Manger un peu de terre, etc., t'affectera pas grand-chose. Alors, ça prend une intervention de Dieu pour qu'il y ait quelque chose. Alors, si un homme a des doutes, il doit aller dans un environnement contrôlé, il doit aller voir le prêtre, il ne peut pas faire ce qu'il veut, il ne peut pas faire sa propre justice, absolument pas. Et Dieu instaure ça dans la société. Tu ne te feras pas justice, tu vas aller voir le prêtre. Et ici, c'est Dieu qui s'en mêle. En fait, le prêtre, c'est l'intermédiaire. C'est Dieu qui va faire une intervention ici. C'est lui qui sera l'ultime juge. Voici ce que disent les rabbins sur le passage dans Nombre 5. C'est vraiment bien. Ils disent, pareille chose, ça nous aide à comprendre le contexte historique de l'époque. Pareille chose n'existe dans aucune autre société humaine. Les rabbins sont arrivés devant cette loi-là dans Nombre 5. Ils ont été émerveillés. Puis ils disent, pareille chose n'existe dans aucune autre société humaine. Grâce à cette révélation divine, la paix et la bonne entente pourront régner dans nos foyers et notre descendance sera préservée de toute tâche. Incroyable, hein? C'est Dieu qui a fait ça. C'est la parole de Dieu qui a fait ça. Les chrétiens ont également rehaussé la moralité sexuelle. C'est Dieu qui a donné ce commandement, tu ne commettras point d'adultère. Éphésiens 5, 3 dit que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ne soit pas même mentionnée parmi vous comme il convient des saints. Mais c'était tellement différent dans le monde ancien. Lorsqu'une femme se mariait, d'ailleurs, elle devait prononcer dans ses vœux de mariage, « J'accepte tes adultères ». Ça, c'était le monde dans lequel on vivait, mais les chrétiens ont rehaussé la dignité des femmes. Tournez avec moi dans un passage dans 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. Eh oui, on va parler de sexualité ce matin. Alors, on va commencer la lecture au verset 1. 1 Corinthiens 7, verset 1. D'accord? Vous êtes là? Au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière, et retourner ensemble, de peur que Satan vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Maintenant, ici, on a vraiment la clé d'un mariage réussi. Alors, on revient au verset 5. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Voici la clé d'un mariage réussi. Premièrement, veillez à votre intimité. Veillez à votre intimité. La sexualité est un don de Dieu pour le mariage. C'est le plus beau cadeau qu'il n'a pas donné à un couple, où, alors qu'il peut exprimer, le couple peut s'exprimer toute leur affection, leur amour. L'Église de Corinthe avait plusieurs problèmes, d'ailleurs. C'est Paul qui l'avait fondée, mais lorsqu'il est parti, en l'espace de quelques temps, très peu de temps, elle a commencé à avoir des problèmes. D'ailleurs, elle va écrire des lettres à Paul, ils vont demander toutes sortes de questions que Paul va adresser au cours de sa lettre. D'ailleurs, il y a à peu près 11 problèmes que Paul répond dans la lettre aux Corinthiens. Par exemple, lorsqu'il arrive au chapitre 12 jusqu'au chapitre 14, il dit, « En ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas vous soyez dans l'ignorance, les frères. » Donc, il commence à enseigner. Et là, il ouvre 3 chapitres où il enseigne sur les dons spirituels. Pourquoi? Parce que dans l'Église, il y avait de l'abus et tout ça. Les gens ne comprenaient pas les dons et comment ça fonctionnait et tout ça. Il y avait vraiment du désordre. Donc, Paul commence à enseigner sur les dons. Donc, il touche différents sujets comme ça à travers sa lettre. Il y avait un autre problème, et là on arrive justement au chapitre 7 qui nous intéresse ce matin, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est glissé dans l'Église, un courant s'est glissé dans l'Église, c'est que c'était plus spirituel de vivre en célibataire, même si tu étais marié. En d'autres mots, je devrais laisser ma femme, mes enfants, tout ça, m'en aller pendant quelques temps pour étudier la Bible. Il me semble que ça, c'est bien plus spirituel. Alors Paul va répondre, quoi? Absolument pas. Prends tes responsabilités, occupe-toi de ton épouse. Puis, il n'y en a pas question. Alors, Paul va adresser cette question-là et c'est vraiment révélateur. Et mon ami, je vous dis, ça chambarde la société de l'époque. Veillez à votre intimité. Paul dit non, tu ne dois pas partir et négliger ta femme et ta famille. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, un commun accord, pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière, puis retourner ensemble. Attendez pas, le diable va venir, puis tout ça va vouloir vous faire tomber. Veillez à votre intimité, premièrement. Première clé pour avoir un mariage réussi. Nous aurons tous besoin d'entendre ça, célibataire ou pas. C'est ça la vision de Dieu pour le mariage. Un, veillez à votre intimité. Deuxièmement, que Dieu soit au centre de votre foyer. Parce que oui, on parle de prière ici. On parle de jeûne et de prière. Que Dieu soit au centre de ton foyer. Et lorsqu'un couple se marie et Jésus-Christ est au centre du foyer, ils sont encore plus unis. Un exemple qu'on donne souvent, c'est le triangle. Moi, je suis là, ma femme est là, Dieu est là, et plus que je m'approche de Dieu, dans le fond, plus que je m'approche de l'autre. Et à mesure que nous sommes sanctifiés, qu'on s'améliore, on devient de meilleurs maris, de meilleures épouses. Et croyez-moi, ma femme dira amen à ça. Là. Elle l'a vu dans ma vie, moi je faisais dur avant. Et bien, c'est mon Dieu. Alors que Dieu soit au centre de votre foyer, par la prière. Troisièmement, travaillez sur votre unité. Un petit détail ici, pas mal important, il dit « Ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord. » Un commun accord? Je dois vraiment demander à ma femme ce qu'elle en pense, puis tenir compte de ses idées. Hein? Mes chers amis, ça ne se faisait pas à l'époque. Ça ne se faisait pas. C'est révolutionnaire. Ça ne se faisait pas. Dans le judaïsme, le mari avait le droit de s'absenter comme il voulait de sa femme pour la prière et l'étude. Et tout ce qu'il avait à faire, c'est de informer sa femme. Je m'en vais. Je sortais. Il revenait dans combien de temps? Ils ont découvert que le fils d'un rabbin est parti étudier la Bible, marié avec des enfants, est parti étudier sa Bible pendant, vous savez combien de temps? 12 ans. Une pensée, d'ailleurs, il y avait un débat chez les rabbins sur la durée de la période d'absence. Une pensée bien répandue chez les Juifs de l'époque, et d'ailleurs qu'on retrouve ailleurs, est ceci. Ils disent, il y a un temps pour avoir des relations sexuelles avec sa femme, il y a un temps de s'en abstenir afin de se consacrer à la prière. Mais ils ne disaient pas combien de temps. Si bien qu'on a découvert justement les fils de rabbins qui passent 12 ans loin de sa femme. Il ne s'occupe pas des enfants de sa femme. Il l'a laissé, finalement, il l'a laissé tout seul. 12 ans. Ça peut sembler spirituel d'aller prier, puis tout ça, oh, mais je m'en vais jeûner, etc. Mais ce n'est pas les gens qui disent, non, ton mariage est spirituel. C'est de prendre soin de ta femme, ton mari, dans le cas des femmes. Ça, c'est spirituel. Ça vient de Dieu. Et ne pas négliger ta femme et tes enfants. Et regardez bien ce que Paul va dire. À l'intérieur de ce contexte-là, qu'on n'informait pas nos femmes, on ne demandait pas la permission des femmes, puis de parler à nos femmes. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. Imagine-toi donc, en d'autres mots, va voir ton épouse et parle-lui. Aie un échange avec, parle-lui et cherche à savoir ce qu'elle en pense. Hey, ça, c'était révolutionnaire. Dans la société de l'époque, chez les Juifs et ailleurs, en passant, dans les autres sociétés, le mari était l'autorité suprême. On appelait ça patria potestas. Autorité suprême. Le père de famille avait pratiquement droit de vie et de mort, non seulement sur les esclaves, mais sur toute sa maison. Il peut mettre tout le monde dehors, il peut les vendre comme esclaves, et il peut les tuer, sans rendre de compte à personne. La convention de l'époque voulait que les chefs de ménage, les maris, règlent leurs affaires entre eux, sans égard aux personnes, aux femmes. D'ailleurs, ce qu'on faisait, lorsqu'un homme avait une décision importante à prendre, ce qu'il faisait, il appelait ses chums. Puis là, il faisait un meeting avec des amis hommes et ils discutaient entre hommes. La femme, elle n'avait pas au courant, elle ne faisait pas partie de la discussion ou de la réflexion, non. Tu ne consultais pas ta femme. Alors, ils réglaient leurs affaires comme un souverain et un autre souverain. Si un homme devait prendre une décision importante, il convoquait simplement un comité, juste d'hommes, puis il discutait sans la présence de la femme. Les chrétiens arrivent et chambardent tout ça en brisant la souveraineté du mari, alors qu'il doit non seulement informer sa femme, mais chercher une entente mutuelle. Parce que j'entends des « amen » de femmes ici. Je devrais entendre des... À ce point-ci, là, vous devriez, les femmes, dire un gros « amen », là. J'entends pas d'hommes dire « amen ». Je sais pas pourquoi. Tout le monde devrait dire « amen ». Ouais. Ouais, mon ami, c'est merveilleux ce que... Imagine-toi non, si Jésus n'était pas venu. Réalises-tu ça? Non, tout, il y a tout chambardé, là. Tout chambardé. Et quatrièmement, pour un mariage réussi, non seulement, selon Dieu, selon la vision de Dieu, un mariage réussi, c'est premièrement, tu veilles sur ton intimité. Deuxièmement, que Dieu soit au centre de ton foyer. Tu travailles sur ton unité. Ensemble, vous réfléchissez, vous cherchez une entente mutuelle. Mais quatrièmement, tu veilles sur ta sainteté. Veillez, car le diable veut détruire ton mariage. C'est un combat spirituel. Et Paul est en train de dire que ce ne soit pas trop long, parce que de peur que le diable arrive et te tente et te fasse pécher, finalement, et que ton mariage subisse des conséquences. Alors, le problème, c'est que les gens voulaient vivre en célibataire, même s'ils étaient mariés. Alors, Paul va répondre aux célibataires, va dire, écoutez, si vous pouvez rester comme ça, célibataire, super, tu as plus de temps à te donner à Dieu, à te consacrer à l'œuvre de Dieu, au royaume de Dieu, à faire avancer l'œuvre de Dieu. Il dit, amen, ça, c'est super. Mais il dit, je veux que tu saches une chose, c'est un don. Le don de célibat. Le même terme dans l'original, charisma, le même terme original que pour les dons de l'esprit dans 1 Corinthiens. Mais sais-tu quoi? Paul laisse entendre que non seulement le célibat est un don, mais le mariage aussi est un don. Mais ce qu'il va faire aussi, c'est qu'il va dire, prenez soin de vos femmes, prenez soin de vos maris. Vivre comme un célibataire tout en étant marié n'est pas spirituel. C'est pas spirituel. C'est vraiment intéressant. Hein? Ils ont la revue Red Book a mené une enquête, c'est incroyable. Plus de 100 000 personnes. Là. 100 000 personnes. Là. Je ne sais pas si tu sais, mais habituellement, les échantillons, c'est à peu près 1000 personnes. Des fois, ça allait plus, évidemment, puis ils vont arriver avec une marge d'erreur d'à peu près 4 %. 100 000 personnes ont répondu au questionnaire. Ils ont posé la question sur la sexualité des femmes. Ils ont découvert bien des choses pas mal intéressantes, fascinantes. Les femmes qui s'épanouissent plus sexuellement sont les femmes qui ont une vie spirituelle. C'est fort, hein? À l'inverse, et l'inverse est aussi vrai, les femmes qui se disent libres en dehors du mariage, là où on a la sexualité quand on veut, les femmes qui ont des relations en dehors du mariage, et pourtant jugées comme les plus libres sur le plan sexuel, sont les moins satisfaites sur le plan sexuel. Est-ce que Dieu sait ce qu'il fait? Oui. Maintenant, nous vivons à une époque où bien des gens croient que la Bible est considérée comme un moyen d'oppression et non pour libérer. Mais mon ami, tu regardes l'histoire, c'est tout à fait le contraire. Oui, il y a eu des erreurs ici et là, mais tu regardes l'impact du christianisme et l'impact de Jésus-Christ sur la société, le monde est différent. Parce que Jésus s'est incarné, parce que Jésus est venu, le monde est différent. On a besoin de rétablir les faits. Un ancien professeur de l'Université de Yale, William Leon Phelps, a observé, il dit, notre civilisation a été fondée sur la Bible. Plus d'idées, plus de sagesse, de philosophie, de littérature, d'art, d'idéaux proviennent de la Bible, plus que tous les autres livres pris ensemble. Professeur de l'Université d'hier. Oui, l'incarnation a une portée universelle. Parce que Jésus est venu, le monde est différent. Le monde ne sera plus jamais le même. Et tu sais quoi? Si tu es venu à Jésus-Christ, tu sais comment ta vision du monde est vraiment différente d'avant. C'est incroyable comment tout change. Alors que le Seigneur nous fasse entrer dans cette période des fêtes avec un cœur tellement reconnaissant pour l'incarnation. Parce que l'incarnation a une portée universelle dans nos vies et même dans la société. Prions. Et Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons te remercier. Incroyable lorsqu'on met ça ensemble, tout l'impact de ta parole et l'impact de Jésus et de l'incarnation. Nos cœurs sont pleins d'adoration, pleins d'admiration devant ton œuvre et devant tout ce que tu as fait à travers l'histoire. Combien tu veux notre bien. Tu es un Dieu qui est bon et compatissant et miséricordieux. Merci, Seigneur. On veut s'approcher de toi, on veut se coller à toi. On veut t'adorer, te chanter des louanges. On veut se consacrer, on veut travailler à notre sanctification. On veut abandonner le péché parce qu'on veut te plaire, parce qu'on sait comment tu nous as aimés en premier. Lorsqu'on n'était pas aimable, lorsqu'on t'a tassé de nos vies, qu'on ne voulait rien savoir de toi. Ô Seigneur, nous te glorifions. Nous bénissons. Et par ta grâce et par la puissance de l'Évangile et de ton Esprit Saint, on te prie que tu nous aides à faire un pas de plus cette semaine dans notre vie. Peut-être que j'ai des choses à changer dans mon propre mariage. Peut-être que ce matin, ton esprit, à travers ta parole, nous parle et nous montre qu'il y a des choses que je dois ajuster, changer. Peut-être prendre plus en considération mon conjoint. Chercher plus à communiquer, à développer l'intimité ensemble. Parce que c'est un don de Dieu. Et on te prie pour les célibataires d'Église, qu'ils puissent se garder mariage, si tu ne leur as pas accordé, donné ce don de célibat, que ceux à qui tu as donné un don de célibat s'épanouissent comme célibataires, qu'ils réalisent qu'ils ont un grand privilège de pouvoir te servir. En même temps, pour ceux qui sont célibataires, pas encore mariés, nous te prions que tu les gardes près de toi et qu'ils profitent de ces moments pour grandir et devenir une meilleure épouse à venir, un meilleur mari à venir, plus consacré, plus proche de toi. Oui, Seigneur. Et nous arrivons en temps des fêtes et nous voulons nous rappeler la portée de l'incarnation. Ô Seigneur, combien nous te louons, nous te remercions d'avoir eu tellement de miséricorde et de compassion envers nous, que tu as laissé ton propre Fils unique quitter ton ciel, quitter tous ses privilèges d'être Dieu, la gloire des anges, l'adoration d'une multitude, pour venir ici être méprisé parmi les hommes. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons amorcer le temps des fêtes avec ce cœur d'adorateur, émerveillé par ta bonté, en laissant ton Fils venir ici. Merci à Jésus. Pour ta gloire, nous te prions et nous te demandons ces choses.